Bien bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir, en voiture ou à pied, je ne sais pas trop. Voilà, je me présente, je suis Florence Noyer, je m'occupe des éditions Héliotrope qui ont le plaisir de vous accueillir ce soir à ce débat lancement pour le livre Cul-de-sac, l'impasse de la voiture en milieu urbain de Martin Blanchard et Christian Nadeau. Avant de laisser la parole donc à nos invités, à notre animateur Daniel Bernstock et à M. Paul Lewis qui a eu l'amabilité d'accepter notre invitation pour représenter les pro-voitures, on va dire. J'aimerais vous dire peut-être un mot au sujet de ce projet et vous expliquer un petit peu comment tout cela a démarré. Donc, en fait, Cul-de-sac, c'est tout naturellement, je dirais, inscrit dans notre tout jeune catalogue, puisque nous sommes toute nouvelle maison d'édition, ça fait à peu près un an que nous existons. Et je dis tout naturellement, puisque c'est un texte qui est un texte engagé, comme le sont à peu près tous les essais que nous avons publiés chez Héliotrope. C'est aussi un texte qui a l'ambition, qui est un texte exigeant, mais qui a aussi l'ambition de s'adresser au commun des lecteurs, comme pourrait le dire Virginia Woolf. Donc c'est un livre qui a l'ambition de rejoindre quand même un assez large public. C'est aussi un texte, je l'ai dit, engagé. C'est un texte qui parle d'une question qui nous interpelle tous comme citoyens. Évidemment, on est tous. On sait que la prédominance de la voiture, c'est pas un problème tout à fait récent. Par contre, en revanche, je dirais que la question devient plus urgente maintenant. La preuve en est, les capitales européennes se mobilisent toutes pour mettre en place des solutions alternatives à la circulation routière en ville. La ville de Montréal a mis au point, en place au printemps dernier, un ambitieux plan vert pour justement là aussi mettre en place d'autres solutions à la voiture. Bref, je crois que ce texte-là est une contribution originale, importante au débat autour de la voiture, aussi parce qu'il articule à la fois une réflexion théorique et aussi un aspect pratique. Donc il y a plusieurs pistes, plusieurs propositions dans ce texte qui sont aussi également intéressantes. Voilà, pour finir, avant de vous laisser la parole, je voudrais remercier quelques personnes parce que Héliotrope, c'est une équipe. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier Olga Duhamel, qui a travaillé à l'édition de ce livre, et Laurence Jourde également. Je voudrais remercier Yolande Martel, qui est ici ce soir et qui est responsable de la maquette intérieure du livre, et Antoine Fortin, qui lui a fait la maquette de couverture d'Héliotrope. Je voudrais aussi remercier nos amis Olivieri qui nous accueillent ce soir. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.
Alors, mon nom est Daniel Weinstock, c'est moi qui animerai la soirée donc de discussion autour du livre de Martin Blanchard et de Christian Nadeau. C'est un très grand plaisir pour moi d'animer cette soirée autour de ce livre écrit par deux amis et deux collègues. Plaisir d'autant plus grand que normalement je ne devais pas être là, j'avais une réunion importante à Québec. Les horaires de train faisaient que je serais rentré à 8h, 9h, même avec l'autobus à 8h, 8h30 dans la meilleure des situations. Mais heureusement, il y avait une voiture qui partait et donc... ma participation a été sauvée par la voiture. Mais comme
En covoiturage
et entre deux milieux urbains plutôt qu'en milieu urbain. Donc voilà, un compromis. Alors, je vais tout simplement vous expliquer la formule de la soirée. Nous avons en quelque sorte un avocat du diable, enfin quelque chose comme...
Parle plus directement au micro.
Nous avons un c'est la première fois de toute ma vie que l'on me dit de parler plus fort.
directement
dans le micro.
Nous
avons, je peux même pas le regarder dans ce cas-là. Nous avons un quelque chose comme avocat du diable en la personne de Paul Lewis de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal qui va prendre la parole en premier et donner. Pendant 10 minutes, ces raisons de penser que c'est le vélo et non la voiture qui devrait être aboli des milieux urbains. Et ensuite, Martin et Christian, je ne sais pas dans quel ordre. Martin et Christian prendront la parole chacun pour une dizaine de minutes, de sorte que nous aurons une demi-heure de présentation. Et ensuite, on ouvrira la discussion à la salle. Et on verra où ça va nous mener. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Paul Lewis.
Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai trouvé ça un peu étonnant, je dois dire, parce que d'abord, je ne suis pas philosophe et donc je n'étais pas sûr que j'étais de taille pour discuter de ces questions-là avec des philosophes, surtout que le petit message que j'avais laissait entendre qu'on allait aborder les enjeux éthiques, ce qui n'est pas tellement mon truc, et donc je me sentais peut-être un petit peu... pas désemparé, mais disons étonné quand j'ai reçu le message. Puis l'autre raison, c'est que le message de Martin laissait entendre que j'étais un partisan de l'automobile, ce que je crois pas que je suis. En tout cas, je suis pas un inconditionnel de l'automobile. Je suis plus souvent à pied en métro quand je suis à Montréal qu'en voiture, et donc je me sentais pas nécessairement l'avocat du diable qui le recherchait. Et donc je lui ai dit que j'accepterais, mais que ça serait peut-être pas un débat contradictoire, mais que je serais bien prêt à venir parler de transport, d'automobile ce soir à la librairie Olivieri. L'autre élément, en fait, c'est qu'il m'avait dit que je recevrais une copie du livre avant de venir ce soir, que donc je pourrais le lire et réagir un petit peu. Je n'ai jamais reçu la copie du livre. Et donc, je vais réagir sur la quatrième de couverture, qui, vous avez vu, est assez courte, mais dit quand même assez bien le ton du livre. Et donc, je ne suis pas sûr que je vais réagir à l'argumentaire complet de l'ouvrage. J'ai préparé trois ou quatre commentaires que je voudrais faire autour de la question de l'automobile en ville. Je commencerai en disant que, dans le fond, c'est tout à fait normal qu'on critique l'automobile aujourd'hui en milieu urbain, parce qu'en fait, on est tous conscients des problèmes que pose l'automobile en milieu urbain. On peut parler de la mortalité, on peut parler de la pollution par le bruit ou les gaz d'échappement des voitures quand on habite les quartiers centraux. Moi, j'habite sur une rue très passante à Outremont, la rue d'Avard, que les automobilistes connaissent bien, ceux qui arrivent de Mont-Royal. Et dans le fond, il y a certaines journées, c'est particulièrement épouvantable le bruit, l'odeur qu'on peut avoir. Mais puis en fait, jusqu'à tout récemment, on avait tendance à penser que c'était ça, vivre en milieu urbain, c'est qu'il fallait l'accepter. Mais c'est clair que c'est extrêmement dérangeant. Et... c'est clair que l'automobile pose des problèmes en milieu urbain. Et donc, dans ce sens-là, moi, je me sens assez à l'aise quand on dit qu'il faut réduire la place de l'automobile en milieu urbain. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est... en fait, on n'a pas fait assez dans une ville comme Montréal pour réduire la place de l'automobile, pour faire en sorte que les piétons, les cyclistes aient davantage d'espace, mais aussi que les résidents vivent dans des quartiers qui soient beaucoup plus agréables, beaucoup plus intéressants. Et donc, dans ce sens-là, moi, je suis assez à l'aise avec la critique qu'on fait de l'automobile, dans la mesure où l'automobile... est fondamentalement critiquable malgré, et ça c'est peut-être le deuxième point que je voudrais faire ce soir, c'est que l'automobile a quand même apporté un certain nombre de choses et il ne faut jamais l'oublier, c'est que dans le fond ça nous a, comme société ou comme individu, ça nous a donné accès à des territoires de façon différente, on a un rapport à l'espace qui est complètement différent. Une des choses qu'on constate avec l'arrivée de l'automobile, c'est que la notion de proximité s'est complètement transformée. Les gens, comme consommateurs, comme citoyens, comme individus, veulent exercer des choix, par exemple en termes de magasins, des écoles. Et donc, l'automobile leur donne accès à des endroits qu'ils n'auraient pas pu fréquenter autrement s'ils n'avaient pas eu l'automobile. Et dans ce sens-là, il faut reconnaître que l'automobile a changé le rapport à l'espace, ça a permis d'accroître la mobilité de la population d'une façon considérable. Mais en même temps, il faut reconnaître que ça n'a pas permis de le faire pour tous. Et ça, notamment les gens qui sont non motorisés sont particulièrement désavantagés dans une ville qui est conçue pour l'automobile parce qu'en fait, quand on regarde comment les activités s'installent dans l'espace, c'est clair que les activités s'installent maintenant en fonction de l'automobile. Et donc, toute la ville est organisée en fonction de l'automobile et donc les gens qui ne sont pas motorisés sont nettement désavantagés par rapport aux gens qui sont motorisés. Et ça, dans le fond, il faut le reconnaître dans une société où il y a des gens qui ne sont pas motorisés, soit parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer l'automobile, qui est quand même un objet relativement cher, mais c'est aussi vrai pour dans le cas des gens qui ne sont pas capables de conduire des voitures, soit parce qu'ils ont un handicap, soit parce qu'ils ont, par exemple, perdu l'acuité visuelle qui leur permet d'avoir encore un permis de conduire. Et il y a aussi les enfants. Depuis 2 ans, je travaille sur un projet de recherche sur la mobilité des enfants entre la maison et l'école. Et une des choses qui nous frappe, c'est de voir que jusqu'à quel point la mobilité des enfants est de plus en plus dépendante des choix que font les parents en termes de mobilité. Autrefois, les enfants se déplaçaient pour aller à l'école seuls, alors que maintenant, les enfants se déplacent essentiellement avec des adultes qui leur montrent le chemin, qui les accompagnent sur la route de l'école. Et donc, les enfants ont de la difficulté à développer une compréhension de l'espace ou, en fait, développer ce qu'on appelle, chez certains sociologues, la connaissance environnementale de l'espace urbain, parce qu'ils n'ont jamais d'autonomie pour se déplacer. Il y a toujours un parent qui les accompagne, il y a toujours un adulte dans l'autobus scolaire. Et dans ce sens-là, il faut reconnaître que sur le plan de la formation, du développement des enfants, ça pose quand même quelques problèmes. Et donc, moi, j'ai le bilan que je fais, c'est un bilan plutôt mitigé. Là, l'approche typique d'un consultant qui dit jamais non ou oui, mais qui va dire oui, mais ou non, mais. Et donc, par rapport à la voiture, j'ai une position qui est un petit peu ambivalente. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître que ça a changé la mobilité, ça a permis de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Ça donnait accès à des territoires, par exemple, ça donnait accès à des espaces qui étaient difficiles d'accès autrefois. Mais en même temps, ça ne le fait pas pour tout le monde. Et dans le fond, il faut reconnaître que comme solution, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, d'autant plus que ça pose des problèmes au plan de la sécurité, au plan de la santé publique. Troisième commentaire, dans le fond, c'est que l'automobile, ça a permis de faire des choses, ça a donné un accès élargi au territoire. Ça, en fait, souvent, on dit de la voiture que ça a créé l'étalement urbain, ou en fait, c'est la cause de l'étalement urbain. Les gens vont vivre en banlieue parce qu'ils peuvent se déplacer en voiture. Mais en quelque part, il faut aussi reconnaître que l'automobile, dans le fond, est venu permettre aux gens de satisfaire des idéaux, des rêves qu'ils entretenaient par rapport à l'environnement dans lequel ils voulaient vivre. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que l'automobile, c'est davantage un instrument qu'une cause au problème qu'on vit. C'est-à-dire que l'automobile est, jusqu'à un certain point, en phase avec la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai tendance à le voir comme ça. C'est-à-dire que ça correspond à ce que les gens recherchent comme outil de mobilité. Pas tous les gens, mais une bonne partie des gens. Et donc, dans ce sens-là, le problème, il n'est pas juste de savoir est-ce qu'on doit ou pas contrôler l'automobile dans la ville, mais c'est c'est qu'il faut qu'on entreprenne une réflexion sur nos modes de vie, sur nos choix comme société. Et c'est pas si simple que ça, parce que l'automobile, dans le fond, permet de faire des choses, mais qui apparaissent comme étant fondamentales pour bien des gens. C'est-à-dire que le désir d'aller vivre en banlieue, il semble assez bien ancré chez bien des gens. Je voudrais juste donner comme petit exemple les 2 derniers sondages qui sont parus dans le Journal de Montréal et dans la presse récemment, qui montraient assez bien que... En fait, il y avait un certain nombre de choses qui étaient intéressantes là-dedans, mais la première chose qui était peut-être intéressante, c'est qu'il n'y a peut-être pas de grand clivage entre Montréal et sa banlieue. C'est-à-dire que les gens qui habitent la banlieue, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils détestent Montréal, ce qui est quand même assez intéressant comme constat. Mais en fait, c'est que les gens qui habitent la banlieue n'ont pas du tout l'intention de revenir vivre à Montréal. Ils sont très heureux là où ils sont. Et un des facteurs qui permet d'expliquer pourquoi les gens sont heureux de vivre en banlieue, c'est que dans le fond, ils n'ont plus besoin de venir à Montréal parce qu'ils trouvent maintenant en banlieue ce qu'ils recherchent en termes d'emploi, en termes d'activité. Et donc, le problème, il n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'à l'époque où la banlieue était essentiellement un endroit où on trouvait des bungalows, ce qu'on appelait autrefois la banlieue dortoir. Dans le fond, la banlieue s'est complètement transformée. Il y a beaucoup de gens qui habitent la banlieue et qui ne viennent plus du tout à Montréal. Et la difficulté face à ça, c'est de trouver des solutions pour ramener les gens vers le transport collectif ou vers des modes de transport actifs comme la marche ou le vélo. Transport collectif vers Montréal, vers le centre-ville de Montréal, moi, j'ai tendance à observer que c'est toujours performant, quel que soit l'endroit où on habite dans la région de Montréal. Le train de banlieue ou les autobus express fonctionnent très bien, qu'on habite Saint-Jean, qu'on habite du côté de Boucherville ou qu'on habite sur la Rive-Nord. Quand on vient vers le centre-ville de Montréal, les systèmes fonctionnent parfaitement bien. C'est en général plus rapide le transport collectif que l'automobile. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent la banlieue qui ne viennent plus sur Montréal parce qu'ils ont trouvé des emplois en banlieue. Ils vont à l'école en banlieue. lieu. Et donc, pour ces gens-là, ça va être extrêmement difficile de trouver des solutions de transport collectif pour leur permettre de répondre à leurs besoins de mobilité. Surtout quand on considère que la banlieue s'est construite sur un modèle assez particulier qui ne ressemble pas du tout à la ville centrale, c'est-à-dire très faible densité puis absence presque totale de mixité. Et dans ce contexte-là, le transport actif devient difficile à réintroduire et le transport collectif devient aussi difficile à introduire. Et donc, dans le fond, je vais terminer avec ce petit commentaire sur sur que faire. C'est clair que dans les quartiers centraux de Montréal, on peut faire beaucoup de choses du côté du transport actif, du côté du transport collectif. Dans la banlieue, qui concerne maintenant plus de la moitié de la population de la région de Montréal, ça va être beaucoup plus difficile. Mais cela dit, moi, je reste persuadé qu'il faut limiter la place de l'automobile. Moi, j'ai toujours été partisan d'une solution où les automobilistes paient, on taxe l'utilisation de l'automobile, soit à travers une taxe sur l'essence, soit à travers l'immatriculation, soit à travers le stationnement. Pour moi, c'est indéniable que le système actuel fait en sorte que c'est souvent plus facile, moins coûteux de prendre sa voiture que de prendre le transport collectif. Puis il faut faire l'expérience de prendre le transport collectif à Montréal pour comprendre que ce n'est pas toujours le bonheur total. J'ai habité pendant une douzaine d'années à Hochelaga-Maisonneuve. Je venais à l'Université de Montréal tous les jours, pratiquement. Et ça prenait 2 à 3 fois plus de temps en transport collectif qu'en automobile. Et donc, il faut vouloir prendre le transport collectif parfois. Ce qui ne veut pas dire que notre système n'est pas intéressant, qu'on n'a pas un service qui soit de qualité souvent. Mais il faut reconnaître aussi que dans la concurrence entre l'automobile et le transport collectif, c'est souvent l'automobile qui est gagnante, surtout si les prix qu'on pratique aux individus, c'est vrai que les prix qui sont pratiqués envers les individus sont des tarifs qui sont dissuasifs. Le transport collectif coûte de plus en plus cher. L'automobile, ça reste assez raisonnable, surtout quand on fait du covoiturage. À ce moment-là, on peut réduire les coûts par 2 ou par 3. Mais c'est clair que la bataille n'est pas facile. Mais moi, je reste persuadé qu'il faut que les automobilistes paient pour l'utilisation qu'ils font. Et dans le fond, toutes les études le montrent, l'instrument le plus performant pour amener les gens à utiliser d'autres modes que l'automobile, c'est à travers le portefeuille. Si les gens ne paient pas le vrai coût de l'utilisation qu'ils font de l'espace public, mais en fait, on n'arrivera à rien. C'est pas en leur faisant des petites campagnes en disant « il y a du smog aujourd'hui » qu'on va régler les choses. François Cardinal faisait remarquer que les journées où on annonce qu'il y a du smog à Montréal, le taux d'utilisation de l'automobile ne diminue pas du tout. Ça fait aucune différence et donc c'est pas les campagnes de sensibilisation qui vont faire quelque chose. Dans le fond, moi, je pense qu'il faut utiliser du bâton. Mais en même temps, et je vais terminer là-dessus, je pense qu'il faut reconnaître une réalité fondamentale, c'est que la carte de la ville ne correspond plus à la carte du transport collectif. Quand on se déplace en transport collectif, ça marche vers le centre-ville, mais dès qu'on ne va pas au centre-ville, ça ne fonctionne pas. Essayer d'aller à Sainte-Thérèse en transport collectif depuis Montréal, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Et donc, en développant la banlieue, on a mis en place les conditions pour que l'utilisation d'automobiles soit pérennisée. Et c'est ça un peu le problème avec lequel on est confronté aujourd'hui, c'est d'essayer de rétrofiter en fait des solutions qui correspondent à une ville d'une autre époque. C'est que notre ville ne correspond plus à une solution de transport collectif sur l'ensemble du territoire. Et donc, il faut reconnaître qu'on a peut-être créé 2 villes à l'intérieur d'une région comme Montréal, c'est-à-dire la ville centrale où le transport collectif est performant. Puis en gros, c'est la ville qui est en plus ou moins à 1 km autour du métro. Si on essaye de dessiner un cercle autour de la zone couverte par le métro. Puis après ça, il y a le reste de la ville où la solution transport collectif est une solution moins performante. En fait, transport collectif et transport actif est moins performante, ce qui ne veut pas dire que les gens ne font pas de vélo ou ils ne marchent pas dans les rues, mais c'est clair que le transport actif, la marche et le vélo comme mode de transport et le transport collectif sont de moins en moins applicables dans cette partie-là de la région métropolitaine. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, après ce vibrant plaidoyer en faveur de la voiture, nous allons maintenant entendre l'autre côté de la médaille. Et donc, je vais commencer...
C'est peut-être le même côté, on ne sait jamais.
Oui, voilà. Non, Martin, commencez.
Oui, boss.
Alors, donc, Martin et Christian, vous avez un avantage dans le sens que vous disposez tous les deux de 10 minutes.
OK. Merci beaucoup, Paul.
Peut-être juste pour répondre un peu immédiatement à certaines objections que tu as faites, c'est-à-dire tu as souligné les avantages qu'il y a à avoir la voiture, les avantages de mobilité. Il y a aussi, il y en a plein d'avantages. Notre livre, on essaye aussi de quand même d'être ouvert face aux avantages qu'il y a à posséder une voiture. Moi, j'en ai possédé beaucoup de voitures, j'ai eu 4 motos, 2 Camaro, un 4x4 Jeep, des voitures américaines, des japonaises. J'ai vraiment aimé la voiture quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de voiture et je me déplace autant. J'ai autant de plaisir dans la vie, j'ai autant de mobilité. Donc, il faut quand même voir qu'il y a d'autres façons d'obtenir les mêmes choses. Il y a d'autres moyens d'émancipation, il y a d'autres types de déplacements. Pour ce qui est de la banlieue, notre livre s'adresse principalement à la ville. C'est vrai qu'il faut réfléchir au problème de la banlieue, mais notre livre s'adresse principalement à la ville pour la raison que la plupart des déplacements se font dans les grandes villes. Donc, si on essaie de réduire les méfaits causés par la voiture, il faut d'abord regarder là où il y a beaucoup de déplacements et ça se fait en ville. Mais il est vrai aussi que la banlieue, et on l'a vu dans le reportage du Journal de la Presse la fin de semaine passée, que c'est la banlieue est en explosion. Il faut quand même penser à la question de la banlieue. Notre livre ne l'adresse pas directement, donc c'est vrai. C'est une critique qu'on peut lui faire.
C'est le prochain livre,
voilà. C'est une façon de s'en débarrasser. Mais on pourrait quand même dire que, par exemple, on peut imaginer des systèmes, des nouvelles façons de concevoir le transport collectif qui peuvent s'adapter à la banlieue. Alors, je pense entre autres à des autoroutes d'autobus qui pourraient déplacer, c'est-à-dire des corridors pour les autobus pour déplacer beaucoup de gens dans des points précis, puisque parfois on a à faire des plus longs kilomètres pour se déplacer en banlieue. Il y a aussi des taxis collectifs à Saint-Jean, ils ont les taxis collectifs. Donc il est possible d'avoir d'autres solutions de transport collectif adaptées à la banlieue. J'en ai nommé deux. Je pense qu'on pourrait être créatif puis audacieux en imaginer d'autres. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je regardais, il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps en Suède à propos de ce qu'on appelle les pod cars, et c'est des petites voitures sur rails qui peuvent permettre de déplacer les gens et qui sont très flexibles, qui ne coûtent pas cher à mettre en place. Donc, c'est beaucoup moins cher mettre un système de pod car que de mettre un système d'autobus ou de métro. Donc, il y a des solutions pour le transport collectif, mais comme on ne s'y est pas attardé, comme on ne s'y est pas penché, particulièrement dans le livre, je ne veux pas non plus, je pourrais pas non plus répondre entièrement à l'objection, mais je maintiendrai quand même la philosophie générale du livre. La philosophie générale du livre, pour l'expliquer en quelques minutes, c'est premièrement de prendre acte des dommages qui sont causés par la voiture. Les dommages, Christian va expliquer pourquoi ce sont des dommages moraux, c'est-à-dire des dommages dont nous sommes tous responsables. Mais les dommages sont quand même, avant même de réfléchir à la question morale des dommages, c'est des dommages qui sont immenses. Donc, depuis l'invention de la voiture, quelqu'un nous disait récemment qu'il y a eu 18 millions de morts causées par la voiture et 20 à 30 fois plus de gens blessés par la voiture. Donc, c'est énorme quand même. Au Québec, depuis 1960, on 5, je crois. C'est des chiffres que Richard Bergeron pourrait confirmer mieux que moi, qui est ici dans la salle. Depuis donc 1900 à des années 60 au Québec, il y a environ 2,5 millions d'accidentés. C'est beaucoup quand même. On a quelque chose comme une chance sur 15 ou une chance sur 20 dans notre vie de se faire frapper par une voiture. C'est quand même notable. Il y a les coûts sociaux, les coûts économiques, le transport en voiture. Paul Lewis dit que le transport en voiture est moins cher que le transport collectif, mais kilomètre pour kilomètre, ça coûte quand même moins cher de transporter les gens dans des systèmes collectifs que dans des systèmes individuels. On parle parfois de 5 fois moins cher. On regarde des villes qui se sont tournées vers le transport collectif comme Toronto, comparé à d'autres villes comme Détroit qui ont plutôt opté pour le système individuel, et c'est beaucoup plus cher. L'infrastructure est beaucoup plus chère dans des villes qui ont choisi le transport individuel. Donc, pour toutes sortes de raisons, et ça, c'est des chiffres, je pense que tout le monde peut être à peu près d'accord avec ces chiffres-là, la voiture crée des dommages et il faut en tenir compte. Christian va vous expliquer en quoi ces dommages sont des dommages moraux. Et une fois qu'on a, si on admet, si on est d'accord avec, si on accepte l'argument comme quoi les dommages sont des dommages dont nous sommes tous responsables, c'est des dommages moraux, eh bien, il faut trouver des solutions. On ne peut pas simplement dire c'est des dommages nécessaires, on ne peut rien y faire. Non, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Alors, la philosophie générale du livre, c'est de proposer des mesures désincitatives, donc des mesures qui font payer au conducteur, en partie au conducteur, mais aussi parfois à la société, le coût de la voiture, que ce soit d'un côté monétaire, donc par exemple des coûts d'immatriculation qui peuvent être parfois adaptés à la consommation d'essence de la voiture, par exemple, ou des coûts de péage pour rentrer en ville, mais aussi des mesures qui peuvent ralentir le flux de la voiture, parce que la voiture va très vite, mais c'est une vitesse qui est payée par ceux qui ne prennent pas la voiture, qui sont pris avec des transports collectifs qui ne vont pas vite. Donc, des mesures aussi qui peuvent ralentir le flux automobile pour augmenter la vitesse des transports en commun. Et à chaque mesure qui sont des mesures désincitatives, des mesures pour disons, décourager les gens de prendre la voiture, on répond par des mesures incitatives pour les encourager à prendre le transport en commun pour avoir des transports collectifs qui soient efficaces. Et parmi l'ensemble de solutions de transport collectif qu'on propose, là je vais vous les nommer en vrac, donc il y a le transport en commun standard, là, les autobus et les métros, mais il y a aussi le tramway qui commence à être, on en discute de plus en plus, il y a le covoiturage, il y a les taxibus, c'est des taxis donc qui ont des routes prédéterminées et qu'on peut embarquer dans le taxi en étant sur la route déterminée du taxi. Ça existe à Saint-Jean, mais ça existe aussi dans les pays d'Amérique du Sud, au Mexique, ça existe en Afrique, ce qu'on appelle les taxibrousses. Ça existe aussi dans des villes d'Europe du Nord. Les coopératives de propriétaires de voitures, il y a Communauto ici à Montréal qui fonctionne très bien. Les trains, ce que j'appelle les trains marchands, et ça c'est pour les gens qui ont des enfants, c'est les trains marchands, c'est
Pardon? Ça s'appelle les carapates aussi.
Les carapates, d'accord. c'est des personnes désignées, des parents qui ramassent des enfants sur le chemin en allant vers la garderie ou en allant vers la petite école. Et tous les enfants ensemble, soit dans des bidules roulants là, en plastique ou alors soit en marchant, vont à l'école au lieu d'aller à l'école en 4x4 ou en voiture. Les podcars dont je parlais tout à l'heure, donc des petites voitures sur rails. On n'a qu'à construire des rails un peu partout qui empruntent, disons, une rue sur trois à peu près de notre configuration actuelle de route. C'est très flexible, c'est pas cher à mettre en place. Des vélos collectifs, ça existe à Paris, ça existe à Lyon. Ce qu'il faut, on en parlait avec Paul tout à l'heure, c'est par contre d'offrir beaucoup de vélos et beaucoup de stations pour accrocher ses vélos, parce que si on fait juste des petites expériences pilotes, ben ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment être sérieux quand on implante les vélos collectifs. Et comme je parlais tout à l'heure, des cargos de bus, c'est une idée qu'on retrouve chez Georges Monbiot. C'est-à-dire, donc, déplacer beaucoup de gens sur des axes qui sont préférés. Là, et c'est une solution qui s'adapte bien à la banlieue. Alors, ce type de solution-là de transport collectif et des mesures aussi qui veulent ralentir et désinciter l'usage de la voiture, l'idée qu'on veut, c'est changer les mentalités des gens, changer les institutions, mais aussi changer les mentalités parce qu'on est pris dans un peu un cercle vicieux où les choix personnels encouragent un système social qui lui-même encourage le choix personnel de choisir la voiture. Et ce qu'on veut, c'est briser ce cercle vicieux-là et responsabiliser les gens devant leurs choix. Parfois, c'est vrai, il faut changer ses habitudes de vie. Si on n'a pas de voiture, c'est vrai que parfois, il y a un certain coût à assumer en tant qu'individu. Mais en même temps, il faut se responsabiliser face aux dommages que l'on crée par ses propres choix. Il faut prendre la responsabilité sur ses épaules. Mais aussi, il faut faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent pour leurs choix. Et le principe derrière, pour me répéter un peu, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des mesures qui découragent la voiture, qu'il y a des mesures qui encouragent un autre type de transport, et que ceci mette en branle un changement de mentalité, comme ça pourrait mettre, comme on change aussi les institutions, on veut aussi changer les mentalités. Il y a une inertie qui fait qu'on ne bouge pas, il y a un statu quo autour de la voiture qui fait qu'il n'y a pas moyen d'encourager les transports collectifs. Et c'est une inertie qu'il faut briser. C'est ce qu'on espère de pouvoir montrer qu'il est possible de faire. En fait, pour le dire crûment, l'objectif qu'on a dans notre livre, l'objectif, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre de l'avant comme étant raisonnable, c'est de réduire de 50 % les kilomètres qui sont avalés par la voiture et pour les remplacer par des transports alternatifs. Et finalement, se rendre à un usage rationnel de la voiture. Au bout du compte, c'est quoi qu'on veut? C'est un usage rationnel de la voiture, c'est-à-dire que la voiture, c'est pas plus utilisé que d'autres modes de transport. Et ce que plusieurs études ont montré, c'est que les conducteurs, dans tous les kilomètres qui sont avalés par la voiture, il y a 40 % de ces kilomètres où les conducteurs disent être prêts à prendre le transport en commun, mais c'est par habitude ou par paresse ou par d'autres raisons qu'ils prennent leur voiture. Donc ça, c'est facile à changer. C'est quand même une réalité qui est facile à changer. Il y a 40 % un autre 40 % des kilomètres parcourus en voiture. Les conducteurs disent qu'ils auraient pris le transport en commun s'il y avait une meilleure offre de transport collectif. Donc, ce qu'on espère, c'est vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus que 20 % des transports parcourus par la voiture, des kilomètres parcourus par la voiture qui soient faits par la voiture aujourd'hui. Plus que 20 % de ces kilomètres-là aujourd'hui. C'est l'objectif final. Voilà.
Bonsoir, moi je suis toujours content de voir tout plein d'amis. J'ai un côté pône dès que je vois des amis comme ça. J'ai mon public même, j'aime mon public. Enfin, ça me fait toujours plaisir. Là, et puis je suis vraiment content de voir qu'il y a. Je me demandais si on allait réussir à réunir autant de gens, et puis ça fait plaisir à voir. L'autre chose, c'est que je voudrais remercier, on ne l'a pas fait encore, mais le problème de micro qu'on a en fait, c'est lié au fait que nous sommes enregistrés pour une expérience de radio que la revue Spirale a démarré, donc Patrick Poirier, qui dirige l'excellente revue Spirale, une des rares tribunes qui reste pour la culture au Québec, donc a démarré ce projet de Radio Spirale, et donc normalement nos échanges seront disponibles en ligne sur le site de Spirale. Alors juste quelques mots pour répondre à Paul. Je répondrai un peu à la boutade avec une phrase de Bobby Lapointe qui dit « davantage, davantage, avantage, davantage ». En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il se crée un cercle vicieux. Il est tout à fait normal de considérer que la circulation est plus aisée, notamment en banlieue, avec la voiture. Pourquoi ? Parce que tout a été dessiné, effectivement, pour que les voitures seules puissent circuler. Il en va de même en ville. Si vous essayez d'être un vélo, un cycliste légaliste, pour employer une expression que j'ai déjà employée ailleurs, il devient très difficile de circuler. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, vous êtes à la merci d'un système de rue qui est fait essentiellement pour les voitures et qui fait en sorte que vous devez attendre la quatrième rue avant de pouvoir tourner à droite, alors que pour une voiture, ça ne représente absolument aucun problème. Donc, il se trouve que bon nombre de cyclistes, dans mon genre, je dois l'avouer, vont parfois prendre des voies à sens unique, mais à sens inverse. Alors ça, c'est un problème, et je pense que ça demande une restructuration sérieuse du réseau urbain. C'est ce qui distingue, me semble-t-il, le projet que nous avons au sujet de la ville, de la banlieue et de la campagne. Alors, quand on parle du problème de la banlieue, et on dit qu'il devrait y avoir un deuxième livre pour les banlieues, en fait, je crois qu'essentiellement, la structure que nous proposons dans le livre, le cadre argumentatif que nous proposons dans le livre, est essentiellement le même. Autrement dit, il existe des structures sociales qui sont déjà en place, qui ne demandent qu'à être plus performantes. Évidemment, lorsqu'on parle de réseau routier, c'est-à-dire de le tracé urbain, là, il y a des changements qui sont significatifs à faire, mais ce n'est pas comme si tout était à inventer. Là où ça devient particulièrement un défi particulièrement important pour nous, et ça, c'est un projet qu'on a, c'est de penser quelque chose comme le problème des voitures à la campagne. Pourquoi ? Parce que là, le problème est complètement différent dans la mesure où il n'existe pas de solution de rechange qui nous permettrait d'abandonner la voiture. Alors qu'en ville, en fait, l'avenir que nous préconisons, il est en réalité à portée de main, étant donné que toutes les structures sociales sont en place et qu'elles ne demandent qu'à être maximalisées. Évidemment, ça représente des coûts, mais ces coûts, il faut les comparer aux coûts qu'occasionne le choix de se déplacer par le moyen de la voiture personnelle. Alors, ces coûts, essentiellement, Martin a annoncé ce que j'allais dire, ces coûts, essentiellement, nous, on les présente comme des coûts moraux. Pourquoi est-ce que ce sont des coûts moraux ? C'est que, en dehors du fait que la voiture présente des dommages, ces dommages ne sont pas inévitables. Ce qu'on dit, en fait, c'est que on pourrait avoir deux façons de penser le problème. Nous pourrions dire, eh oui, la voiture, ça représente des torts, mais que voulez-vous ? Ça représente des dommages, mais que voulez-vous ? C'est quand même quelque chose qui est utile, et puis, bon, bah, y a des inconvénients. L'autre chose, ce serait de se dire, oui, mais ces inconvénients sont liés directement à nos choix, et donc, nous sommes responsables de ces inconvénients. Donc, nous ne sommes pas simplement responsables du fait que nous nous déplaçons en voiture, nous sommes responsables du fait que se déplacer en voiture implique ce que nous pourrions appeler dans un jargon des externalités, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas, disons, souhaitables par l'agent ou qui n'entrent pas dans son calcul en tant que tel. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça peut représenter des dommages moraux dans la mesure où il existe des individus qui, eux, ont fait d'autres choix et qui subissent les choix d'autrui. Donc là, ce serait ce qu'on pourrait appeler une forme de dommage à autrui. On sait que dans une société libérale au sens large comme les nôtres, en général, on préfère que l'État n'intervienne que lorsqu'il y a un tort qui est fait à autrui. Autrement dit, l'État, pour employer l'expression de Benjamin Constant auparavant, au XVIIIe siècle, Benjamin Constant disait que l'État se charge de faire la justice et nous, les individus, nous nous contenterons d'être heureux. Autrement dit, que l'État n'intervienne pas dans notre bonheur. Alors ça, c'est un principe qui peut être tout à fait acceptable, sauf s'il y a tort qui est commis à l'égard d'autrui, c'est-à-dire s'il y a un préjudice moral qui est commis à l'égard d'autrui. Alors nous, ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il y a un dommage moral commis à l'égard d'autrui, mais il y a aussi un dommage moral commis à l'égard de nous-mêmes. Et ça, ça pose un problème, parce que normalement, si je fais un tort à quelqu'un, c'est contre sa volonté. Alors comment puis-je me faire à moi-même du tort, étant donné que je gis volontairement contre moi? Donc je ne peux pas concevoir cela comme un tort. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une perspective individualiste, ce sont des choix sociaux. Et le fait que nous, ce que nous appelons un tort que nous nous commettons à nous-mêmes, en fait, c'est sur le plan, disons, d'une structure sociale. C'est que socialement, lorsque je permets, non pas lorsque je favorise, lorsque je prends ma voiture, par exemple, moi je ne conduis pas, je ne sais même pas conduire, ça j'ai honte de l'avouer, mais bon. Alors, donc moi je suis l'antithèse de Martin de ce côté-là, je n'ai non seulement jamais possédé de voiture, mais je confonds encore le frein et l'accélérateur. Donc, nous ce qu'on dit, c'est non seulement il y a un dommage à l'égard d'autrui lorsque un individu prend une voiture sachant tous les torts que cela représente, et là on a toute une partie du livre qui est consacrée exclusivement à énumérer les dommages de la voiture, mais en plus, lorsque je cautionne quelque chose en disant « ben oui, enfin, je laisse faire, je suis bien obligé de vivre avec ». Donc, en ce sens-là, je m'incline et je participe à un tort collectif que nous nous faisons à nous-mêmes. Donc ça, c'est pour ce qui est de la question des dommages moraux. Alors, par contre, ce que ça implique, c'est qu'il faut faire bien attention que la perspective des dommages moraux pourrait laisser croire que c'est quelque chose comme un tort qui doit être réparé de manière immédiate. Autrement dit, il y a un dommage, donc il doit y avoir punition. Or, nous, ce qu'on dit, c'est absolument pas, étant donné qu'il ne s'agit pas seulement d'un dommage à autrui, mais aussi d'un dommage à nous-mêmes, la meilleure solution n'est pas à penser dans les mécanismes punitifs, même s'il peut y exister un certain nombre de sanctions, mais il faut aussi qu'il y ait cet effort de conscientisation qui fasse en sorte que les individus demandent aux institutions et que les institutions répondent aux individus. Ma perspective première, et ça je le dois à Martin, ma perspective première, moi, c'était plutôt de demander beaucoup aux institutions, par exemple de demander beaucoup à l'État, et peu aux individus. Mais Martin me disait, mais en même temps, on ne peut pas concevoir, et ça c'est l'approche pragmatiste qui est la sienne, que je trouve très, très, très pertinente pour notre livre, on ne peut pas concevoir que tout vienne du haut vers le bas. Il doit y avoir aussi une forme de rotation, c'est-à-dire il doit y avoir aussi des demandes qui sont le propre des individus afin que les institutions changent. Et c'est ce que nous souhaitons dans ce livre. Alors j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon 10 minutes, mais voilà. Donc en gros, ça vous donne un panorama du livre et on espère que vous allez tous le lire.
Alors,
est-ce que Paul veut prendre une minute ou deux pour
je pourrais réagir sur beaucoup de choses, mais je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que j'ai entendu. Mais j'aimerais peut-être faire deux petits commentaires. Le premier sur le covoiturage, parce que moi, ça m'agace beaucoup l'insistance qu'on porte au covoiturage, parce qu'à mon avis, covoiturage, c'est aussi l'automobile. Et dans les 18 millions de morts et les 20 fois 18 millions de blessés, il y avait beaucoup de gens là-dedans qui étaient en covoiturage. Et à mon avis, le covoiturage, ce n'est pas une solution qui change fondamentalement le problème, c'est-à-dire que ça réduit le nombre de voitures par deux ou par trois, mais le problème reste quand même là, c'est-à-dire qu'il y a de la voiture. En fait, on inverse peut-être les rapports, on modifie l'équilibre entre la voiture et d'autres modes, mais cela dit, même en covoiturage, il y aura des accidents, il y aura des blessés, des blessés graves.
Est-ce que je peux juste deux minutes, deux secondes là-dessus? Je m'excuse,
c'est pas non,
là.
Non, ça va.
Là, parce que, en fait, ça, c'est une approche qu'on a dans le livre aussi. Pour employer un jargon philosophique, vous me l'excusez, là, on a une approche conséquentialiste. Ce qui nous intéresse, autrement dit, c'est de dire que conséquentialiste au sens où ce qu'on pense, c'est que il ne faut pas être absolutiste puis interdire la voiture. Comme par exemple, si on admettait que c'était un dommage moral au sens d'un tort fait à autrui, alors on dirait, ben, je sais pas, comme par exemple tuer quelqu'un, on dirait, ben, il est interdit de tuer quelqu'un. Donc si la voiture c'est la même chose, on dirait la voiture est interdite. Mais nous ce qu'on dit, c'est que le problème n'est pas là, et c'est la raison pour laquelle toutes les solutions qui vont, disons, diminuer le problème sont les bienvenues. Bien sûr, ensuite, ça doit être progressif. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on pense que les voitures hybrides ne règlent pas le problème, parce que la construction même de la voiture hybride représente une pollution extraordinaire.
Et en fait, c'est qu'elle occupe le même espace ou à peu près
tout
dans
fait,
la ville.
C'est tout ça fait. Alors, on baisse la pollution peut-être, mais il y a une autre forme
et
de
en
pollution.
En plus, pour les aveugles, c'est pas bon du tout si ça fait pas de bruit.
Ah, tiens.
Mais par contre, quand on est à la campagne, ça permet de voir les petits chevreuils.
Oui, c'est ça. Et les vaches ne se retournent pas sur notre passage quand même. Mais cela dit, dans le fond, le covoiturage, ça m'apparaît être une voie intéressante, mais il faut quand même reconnaître que c'est encore la voiture. Et donc, moi, dans ce que j'entends dans votre livre, c'est pas du tout... Et puis, dans le fond, la précision qui vient d'être faite, c'est... et moi, je me sens assez à l'aise avec ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout le refus de la voiture, c'est plutôt le rééquilibrage entre la voiture et les autres modes. Et moi, dans ce sens-là, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on peut trouver des moyens pour refaire cet équilibre-là. Deuxième petit commentaire, qui n'est pas vraiment une réponse, parce qu'en fait, je me sens bien à l'aise avec ce que vous dites, c'est dans toutes les solutions que vous avez évoquées, en fait, c'est des solutions qu'on entend souvent, dont on lit beaucoup, sur lesquelles on lit beaucoup dans la littérature, la documentation sur ces questions-là. Et dans le fond, il y en a plusieurs qui méritent d'être testées, mais méritent d'être essayées. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est que, par exemple, des solutions comme ce que les Français appellent le car à pattes, qui en fait, les Anglais, ils parlent de pédibus. Donc, c'est l'idée d'un parent qui accompagne une série d'enfants vers l'école. En général, ils sont à pied, ils marchent librement, un peu comme on le faisait quand on était jeune et on allait à l'école en groupe. En fait, c'est que ça a été essayé à beaucoup d'endroits, mais ce sont des solutions qui présentent énormément de problèmes au plan logistique, surtout dans une société où la majorité des adultes travaillent, ce qui est de plus en plus le cas dans nos sociétés, et où les gens déménagent beaucoup. Et ça semble simple comme solution, mais c'est pas nécessairement simple. Je donne ça comme exemple, c'est pas du tout pour le dénigrer, mais c'est pour montrer que la voiture, c'est aussi la solution de la facilité pour plusieurs d'entre nous dans une société comme la nôtre, et que les autres solutions vont demander beaucoup d'efforts pour les mettre en place. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais ce qui montre que, dans le fond, on a besoin de réflexions, de livres comme ça pour que le débat soit fait. Mais c'est que ce n'est pas simple du tout. La voiture, c'est vraiment la solution de la facilité. C'est un objet qui coûte cher, c'est un moyen de transport, parce qu'en fait, j'ai dû mal m'exprimer tantôt. Je ne dis pas que la voiture, c'est moins cher que le transport collectif, mais c'est que la voiture, c'est pas tellement cher pour la majorité des gens qui sont capables de se le payer. D'ailleurs, les gens se l'achètent. Moi, j'écoute des étudiants qui me font le commentaire que le paiement sur une voiture, c'est moins que la passe mensuelle quand ils habitent la banlieue, bien sûr. Quand ils habitent Montréal, c'est pas tout à fait vrai, mais quand on habite la banlieue, c'est souvent plus ou moins du même ordre, et c'est un peu comme ça qu'ils font le calcul. Que ce soit rationnel ou pas, c'est autre chose. Mais c'est que les autres solutions qu'on peut mettre en place sont parfois pas tellement coûteuses, mais sont parfois très lourdes sur le plan logistique, sur le plan organisationnel. Et donc, ça va demander un effort immense, dans le fond, pour inverser des tendances qui sont bien ancrées dans nos sociétés.
Ben écoutez, le plancher est maintenant ouvert pour vous. La seule demande qu'on vous fait, c'est que comme l'émission, comme il s'agit en fait d'une émission qui va être enregistrée et transmise sur donc Spirale Radio.
Radio Spirale?
Radio Spirale. On vous demande d'attendre d'avoir le micro en main avant de commencer votre intervention.
Comme à la commission Bouchard-Taylor.
Comme à la commission Bouchard-Taylor. Voilà.
D'ailleurs, on a le projet de faire une commission Blanchard-Nadeau sur le transport à la campagne.
Voilà. Ce serait excellent. Donc, je vous demanderais qu'on est nombreux. On n'a probablement pas plus qu'à peu près...
2 minutes chacun.
Deux minutes chacun, comme à la commission Bouchard-Taylor. Donc, soyez concis dans vos remarques, s'il vous plaît, pour que autant de monde que possible puisse prendre la parole.
C'est un énorme succès.
Bonjour. C'est pas pour un accommodement ni rien du tout, mais et je suis arrivée en retard, donc c'est peut-être déplacé en plus. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle place vous faites à l'industrie automobile dans l'équation. On responsabilise les individus, l'État, on veut les taxer, mais l'industrie.
Moi, j'ai une réponse, mais peut-être, Martin, tu veux d'abord...
Non, c'est une réponse aussi.
Ben, là, il y a deux choses. Bon, évidemment, quand on a fait le livre, là, c'est la mauvaise réponse. Quand on a fait le livre, on a fait le projet de faire le livre le plus court possible. Donc, évidemment, il y a certaines choses qu'on a mises de côté, et puis notamment au niveau des analyses par rapport à certaines données, notamment au sujet des entreprises. Je pense qu'effectivement, là, il y aurait tout un travail à faire. Mais en gros, c'est ce qu'on voit, c'est que pour nous, c'est... Là, je vais peut-être être un peu trop radical, Martin me corrigera, mais bon, comme il est parfois plus radical que moi, donc ça risque d'aller mal. C'est que ce qu'on voit, en gros, c'est que c'est les entreprises qui sont essentiellement l'ennemi principal. Pourquoi ? Parce que, bon, quand on pense, par exemple, au système de tramway qui existait à Montréal, qui a été complètement démonté, notamment en partie... grâce aux compagnies automobiles, que ça a été fait dans plusieurs villes d'Amérique du Nord. Alors, là, on voit ce problème-là. Donc, il y aurait tout un travail de confrontation à faire. Par contre, en revanche, un argument qu'on pourrait se faire dire, c'est si, là, effectivement, par miracle, on arrivait très rapidement à une baisse drastique de l'achat des automobiles, alors il y aurait, c'est vrai, il y aurait un sérieux problème d'emploi, dans la mesure où il faut quand même se rendre compte que c'est un secteur économique très important au Québec. Et à chaque fois qu'il y a une crise dans le secteur automobile, c'est l'économie et donc des gens comme vous et moi qui vont en pâtir. Donc là, ça demande de penser des mécanismes qui feraient en sorte que l'argent qui est investi pour la construction des automobiles, il faudrait évidemment faire en sorte que la même main-d'œuvre avec les mêmes qualifications puisse être employée à faire des transports publics. Mais là, évidemment, ça reste à configurer.
Vous savez que j'ai beaucoup de sympathie pour votre projet, mais j'aimerais souligner ce que je perçois comme un effet pervers dans le processus de s'adresser au problème et puis de tester vos intuitions sur ça. Alors, si je pense au problème lié à la voiture, je pense à deux choses, pollution et congestion. Hein, et ma question concerne la congestion. Le plus qu'on réussit à résoudre ce problème... Le moins, c'est un problème pour ceux qui restent en utilisant la voiture. Hein? Parce qu'il y a moins de voitures dans la rue, alors il y a moins de congestion, et ceux qui l'utilisent encore sont dans une meilleure position. Alors, la solution pour ça, Paul nous l'a donnée, vous la reconnaissez aussi, il faut augmenter le prix. Hein? Alors, jusqu'à quel point, la question qui m'intéresse, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on veut augmenter le prix, et je vois une légère ambiguïté. Est-ce qu'on veut augmenter le prix pour avoir une réduction absolue dans l'usage de la voiture, 50%, ou est-ce qu'on veut augmenter le prix jusqu'au point où on a un cocktail de transport pluraliste, il y a des choix que les gens puissent faire, et toutes les externalités ont été internalisées. Alors supposons qu'on arrive à ce point-là après une réduction seulement de 20%, de 25%, de réduction d'utilisage des voitures. Est-ce que le problème est résolu pour vous ou est-ce que l'objectif va plus loin? Alors évidemment, c'est une question empirique. Moi, je prends le luxe de spéculer un peu, mais c'est notre métier. Alors.
Oui. Martin, puis après, moi, je
vais okay. Merci, Chris. Merci, Peter. Ce que je répondrais là-dessus, c'est que c'est vrai qu'il faut tenir compte des motivations des individus, puis il faut tenir compte de leur des choix qu'ils font en mesure des coûts qu'ils peuvent absorber, et puis qu'ils vont faire des calculs assez rapides si les rues se libèrent. Mais justement, dans les mesures, mais là je l'ai dit vraiment rapidement, mais dans les mesures qu'on propose, il y a aussi de ralentir le flux de la circulation. Et ça, là, c'est pas un coût monétaire, c'est un coût qui est relié au fait d'utiliser même la voiture. Et le fait qu'on utilise la voiture et qu'on ait toute cette facilité d'aller vite avec la voiture rapidement, tout est conçu, la ville, elle est entièrement conçue là, sur le principe d'avoir un flux de circulation rapide de la voiture. Je pense que ça, il faut quand même imaginer au niveau de l'urbanisme des obstacles, des barrières. Des barrières qui peuvent être assez naturelles, par exemple en mettant un tramway sur des voies principales, ça enlève le nombre de voies que la voiture peut prendre. Et ça, même si on réduit, même s'il y a moins de gens qui prennent la voiture, il reste qu'en ayant un tramway, il y a moins de possibilités de mettre des voitures sur la route. On peut faire aussi la même chose avec des pistes cyclables. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut tenir compte dans l'objection que tu as fait, c'est qu'il ne faut pas pénaliser les gens les moins riches. Il ne faut pas que ce soit les personnes qui sont les moins nanties qui payent le plus cher, ou en tout cas qui supportent le plus le coût d'une transition vers un cocktail de transport. Moi, je pense plutôt à un open bar de transport. Qu'il y ait le plus de choix possible et qu'on puisse choisir parmi tous les moyens de transport, ceux qui sont mieux adaptés à nos besoins. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, mais c'est vrai que c'est un problème empirique et qu'il faut y répondre en regardant les données empiriques, mais du côté là, un peu normatif, là, c'est-à-dire du côté comment j'imagine qu'il faut orienter notre réflexion, il faut aussi ralentir la vitesse à laquelle... et puis enlever des voitures sur la route. Là. Il faut le faire d'une façon absolue. Là.
Je vais juste deux mots, parce que il me semble aussi que la question que tu poses, c'est une question de justice sociale. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que les préférences des individus on force pas les préférences des individus. Autrement dit, on ferait en sorte que nos préférences, on les prête à tous les individus d'une même société. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc effectivement, ça se fait dans le cadre d'une délibération démocratique. Et puis ces choix sociaux ne peuvent pas tomber du ciel. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que le projet est tout à fait compatible avec un cadre de justice sociale qui ferait en sorte que, par exemple, nous pourrions très bien concevoir que s'il y avait, par exemple, des surplus, imaginons que très rapidement, avec, disons, des taxes, etc., etc., nous avons réussi à non seulement baisser le nombre de voitures, mais aussi à faire en sorte que la qualité des transports en commun s'est largement améliorée. Alors, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir une interdiction pour, par exemple, favoriser des services sociaux qui pourraient être liés au transport. Par exemple, en favorisant des transports personnalisé pour des personnes en difficulté de déplacement, les handicapés, etc. Donc il pourrait y avoir toute une panoplie. Donc c'est pas les endroits qui manquent pour faire des dépenses, autrement dit. Mais ça m'apparaît même pas nécessaire que s'il y avait, disons, un surplus, ce qui serait très étonnant, mais s'il y avait un surplus, celui-ci soit distribué uniquement sur le mode du transport.
Philippe Côté. Le commentaire général, c'est ça, c'est qu'on a adapté la ville à l'automobile parce que le projet était un projet rural au début. Le premier marché de l'automobile était rural, comme
touristique.
Et puis on voit que ce processus-là est toujours, si on peut dire, dans le code de Montréal et du Québec, c'est que les infrastructures d'adaptation de la ville à l'automobile rencontrent un mur. Donc c'est la commission Johnson qui a généralisé son mandat. Mais comment, à ce moment-là, pouvez-vous vous positionner, même si vous avez fait une annonce de justice sociale, entre des annonces actuellement d'une reconstruction du réseau autoroutier entièrement gratuit, quand l'ensemble des missions de l'État, comme l'éducation, la santé, sont tous annoncés à payage, et qu'on voit très bien, en plus de ça, les grands projets d'hôpitaux inscrire jusqu'à 15% de leur des nouvelles constructions dédiées à des stationnements souterrains. Comment pensez-vous que la lutte à l'automobile peut faire un renversement par rapport aux grandes missions de l'État qui sont actuellement tout à payage pendant qu'on reconstruit tout gratuitement?
Oui, Christophe. Moi, je continuerai dans la logique de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que Bah, d'une part, on ne pense pas qu'il devrait y avoir une priorité du transport, de la question transport, par rapport à d'autres questions sociales. Parce que d'ailleurs, un des éléments du livre qui, enfin, moi, m'apparaît important, c'est que le livre ne se présente pas comme un essai écologique. Le livre se présente comme un essai de philosophie politique appliquée. Donc, autrement dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement de dire qu'il y a un problème écologique de pollution, il y a un problème essentiellement aussi de choix sociaux, il y a un problème de citoyenneté, il y a un problème que les citoyens ne sont pas considérés au même titre, etc., etc. Dès lors qu'on accepte une telle chose, alors on accepte aussi que si les coûts de restructuration des réseaux de transport apparaissent trop grands, ils devront être compensés par rapport à d'autres missions de l'État. Il serait absurde d'avoir une ville où nous pouvons circuler en vélo et respirer un air pur et de voir, par exemple, que les gens sont condamnés à des hôpitaux où ils doivent payer une fortune et à des frais de scolarité qui sont démesurés. Donc là, je pense que si le projet, effectivement, est fondé sur un principe de justice sociale, alors il doit être tout à fait équitable par rapport à d'autres demandes. Est-ce que c'est un obstacle ? Moi, je dirais que, justement, c'est parce que le projet est un projet de justice sociale qu'il s'inscrit, donc on arrive à moduler en quelque sorte les prix pour pouvoir faire en sorte que nous pouvons répondre à différents projets. Ceci étant dit, ce qu'on voit, c'est que, de manière générale, les coûts des infrastructures sociales, que ce soit celle de la santé, sont pensés de façon complètement séparée. Alors, nous, on intervient dans un contexte où ces enveloppes sont pensées de manière séparée. Mais sur le plan normatif, ou sur le plan de nos principes, on peut très bien gérer notre projet dans un cadre où ces enveloppes ne seraient pas séparées. C'est une réponse un peu vague, là, mais c'est celle que je peux vous donner dans le moment.
Je rajouterais seulement qu'il y a plusieurs interventions à date où il y a plusieurs plans temporels, là, c'est-à-dire il y a des mesures à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, à partir du moment où on se met à changer les infrastructures des villes, évidemment qu'il y a un investissement à faire au niveau des transports collectifs, mais dès lors que sur un moyen puis un long terme, il coûte moins cher de se déplacer comparativement à une ancienne situation, bien, les coûts économisés, dans ce cas-là, peuvent être aussi transférés sur d'autres programmes sociaux. Alors, c'est pas toute la réponse, là, mais c'est un élément de la réponse.
Pour reprendre une discussion qu'on a déjà eue, j'ai pas lu le livre, donc... et puis, je sens pas le besoin de m'excuser, mais je viens à pied au travail, mais... quelque part,
Le « mais » qui est important. Là.
Oui, mais dans l'argumentaire, ce que j'avais plus l'impression d'entendre, c'est qu'il y a une mauvaise voiture. Que quelque part, si on parle des méfaits de la voiture, est-ce que, comme on se donne la permission de rêver à une ville qui est mieux construite pour du transport autre que la voiture, pourquoi ne pas se permettre aussi de rêver à une voiture où il y a une réduction des méfaits que vous identifiez? Parce que finalement, la plupart des problèmes qui sont identifiés pour la voiture, le ralentissement, je trouvais que c'est un exemple génial, parce que comme ça, le riche, il est pogné aussi longtemps à 25 km/h, disons, que quelqu'un pour qui le coût est beaucoup plus grand. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a plein de changements technologiques où, comme ça, je pourrais encore avoir un véhicule individuel et réduire la mortalité. Bon, la pollution, c'est la partie facile parce qu'on a déjà des voitures hybrides. Puis ces changements technologiques-là sont... Oui, c'est des contrefactuels, mais on parle aussi de contrefactuels dans votre solution aussi. Ouais. Donc, on pourrait ne rien changer. Bien, on parle de possibilités alternatives d'organisation, mais je pourrais construire une voiture. D'une part, ma Saturn 99, elle peut aller théoriquement jusqu'à 180 km/h, ce qui est absurde. On pourrait mettre des limites comme technologique simple pour qu'elle ne puisse pas aller plus vite que X.
C'est ce qu'on propose, ça.
Puis on pourrait plein de mesures comme ça. Mm-hmm. Et alors là, le véhicule individuel modifie le véhicule individuel pour qu'il y ait réduction des méfaits que vous identifiez sans modifier finalement toute l'organisation de nos villes contemporaines.
Vas-y,
moi,
je te laisse en fait. Non, mais tu as tout à fait raison. On en parle d'ailleurs dans le livre. Premièrement, brider les voitures, brider le moteur des voitures. Ça n'a aucun sens que les voitures peuvent aller au-delà de la vitesse permise, la vitesse maximale permise. C'est une absurdité profonde. Et il y a même, de la part des conducteurs, une majorité de conducteurs qui accepteraient que leur moteur soit bridé, mais ils l'accepteraient pourvu que le moteur de tout le monde soit bridé. Donc, il serait important là, de réfléchir à comment implanter ce type de mesure-là, mais il faudrait brider tous les moteurs. Il n'y a pas un moteur qui puisse aller plus vite, sauf peut-être les véhicules d'urgence. L'autre chose, c'est à propos, pourquoi ne pas changer la voiture et puis on n'aurait pas à changer les infrastructures. Il y a quand même un problème, même si on avait des voitures qui iraient par exemple à 25 km/h en ville et un peu plus vite sur les autoroutes, des voitures qui seraient plus compactes, qui seraient plus écologiques, il semble qu'il y a quand même un problème que chacun possède sa voiture et que, disons, je dirais 80% de l'existence de la voiture est passée dans un garage. Et si tu marches pour venir à l'université, tu as une voiture qui est...
98% du temps arrêté.
Voilà. C'est encore plus fou. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut penser à des voitures qui soient moins dommageables, mais la solution, elle est quand même de réduire absolument le nombre de voitures qu'il y a sur les routes.
Moi, je veux dire quelque chose de plus grave encore. Là, en fait, c'est parce que là, on est prudent, là, mais dans le livre, on avance quelques pistes qui laissent deviner un peu nos couleurs. C'est qu'on n'est pas tout à fait des libéraux ordinaires. C'est-à-dire qu'on ne pense pas en termes d'individualisme. Ce qu'on pense, effectivement, c'est que la voiture n'est pas seulement un problème de pollution, qu'il y a un problème aussi d'organisation sociale puis de choix sociaux qui sont déjà déterminés, alors qu'il n'y a même pas de délibération de la part des partis pour voir si au moins ça nous convient. En fait, c'est précisément parce qu'on dénonce une attitude top-down par rapport à, disons, à des solutions comme les nôtres. On ne veut pas qu'on interdise la voiture. D'un autre côté, on ne veut pas que la voiture soit, encouragée comme s'il était interdit d'être piéton. Donc c'est ça qu'on trouve qui est problématique. Donc même si il y avait, c'est l'exemple que je te donnais, même si nous avions des voitures qui étaient des bulles, donc qui ne représentaient absolument aucune pollution. Ça fait joli en plus d'imaginer qu'on se déplace en bulle. Mais il n'en demeure pas moins que si pour le déplacement de bulles, il fallait le même réseau d'infrastructures, et s'il fallait que, je ne sais pas moi, par exemple, il n'y ait pas d'autre choix que de se déplacer en bulle, etc., etc. Alors là, j'y verrais un grave problème social. Donc en ce moment, moi, ce qui me semble, c'est que, et c'est pour ça qu'on ne se gêne pas de parler de la dictature de la voiture, c'est que il n'y a pas d'autre choix. Ou alors, il faut être très courageux. Puis quand tu dis que tu marches ou que, par exemple, quand je prends mon vélo, à chaque fois, c'est une odyssée. Et ça, c'est une odyssée, que dis-je ? C'est bien pire que ça. Alors, ça, c'est quelque chose qui devrait être, en fait, tout simplement un moyen de transport. Je ne comprends pas que... Je n'arrive pas à concevoir, surtout moi, je ne suis pas courageux pour deux sous, mais je me trouve du courage en me déplaçant en vélo. C'est quand même incroyable.
Juste un petit commentaire, quand Christian dit qu'on n'est pas des libéraux ordinaires, il se réfère à la tradition philosophique du libéralisme politique et pas à des partis politiques.
Oui, bien sûr. Non, on avait compris. Excusez-moi, là, si ça n'était pas clair, effectivement.
Christian a refusé le poste de lieutenant du Québec.
Bon, je n'ai pas lu le livre, mais je me demande si deux solutions ou modifications qui ont aidé à la solution de la circulation et surtout à la pollution, vous les connaissez. Les deux ont été appliqués à la ville de Mexico, qui est, je pense que c'est la ville la plus congestionnée, avec 4 millions de voitures dans la ville de Mexico. La première s'appelle le programme Hoy No Circula. Un jour de la semaine, les voitures qui ont une licence qui finit par 8, etc., etc., ces jours, la voiture ne circule pas. Ça va diminuer à 7% le nombre de voitures qui sont dans la route, et surtout, il oblige aux individus d'essayer par force un milieu de transport en commun qu'ils n'ont jamais fait. Alors peut-être, en être forcé de l'essayer une fois, ils vont se dire, bon, c'est pas mal. Mm. Numéro 2, c'est la décentralisation. Je ne sais pas, à Montréal, c'est la même chose, mais dans la plupart des des villes de l'Amérique latine, tous les bureaux de gouvernement fédéral sont centralisés au centre même de la ville parce que ce sont les édifices qui ont été construits au début. La cathédrale, le palais municipal et accolé à l'autre côté le ministère des Relations extérieures, le ministère, etc. Et tous ces édifices-là emploient énormément de personnes. Alors le gouvernement a décidé de les transférer en dehors de la ville. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'employés qui ont laissé, qui n'ont plus l'obligation d'aller au centre-ville. Et ça a donné aussi des résultats considérables. Et ce sont deux attentats à modifier la situation qui peut-être pourraient être considérés. Merci.
Je peux réagir là-dessus?
Oui.
Mais en fait, je ne veux pas répondre à ce que vous avez dit, mais je voudrais faire un parallèle avec une situation qu'on a vécue à Montréal quand le pont à Laval s'est effondré. Des fois, il a fallu trouver des solutions. En fait, c'est un peu plus dramatique comme solution que d'interdire les voitures avec des plaques paires, les jours pairs et des trucs comme ça. Mais il y a quelques enseignements qui sont intéressants de cette expérience-là parce que on a mis des mesures, dans le fond, pour permettre aux gens de se déplacer sur Montréal en transport en commun. Et moi, je m'attendais à ce que la première journée, les gens de Laval et de la Rive-Nord gueulent en disant que le service est absolument infect, que ça n'avait aucun sens. Et en fait, c'était exactement l'inverse, c'est que les gens ont découvert que c'était formidable de se déplacer en transport en commun. Mm-hmm. C'était plus rapide, plus confortable. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la situation est revenue à la normale? Ils sont retournés à leur voiture. Ouais. Et donc, ça montre bien que c'est pas si simple que ça.
C'est parlant.
Mais ils ont fait l'expérience et ils ont vu que ça fonctionnait, le transport collectif, que c'était...
Tout à fait bien.
Ils étaient enchantés même. Moi, ça m'avait frappé parce que c'est rare qu'on entend des mots gentils, positifs sur le transport collectif. Et là, dans le fond, on se disait, mais... dans le fond, c'est pas parce qu'il y avait eu une catastrophe, là, mais c'est parce qu'ils faisaient vraiment l'expérience d'un système qui fonctionnait, mais ils sont retournés à la voiture dès qu'ils ont pu.
La seule chose d'interdire d'avoir des jours impairs puis des jours pairs, c'est qu'il y a eu des effets pervers qui se sont...
Il y a eu des autorisations.
Oui, c'est ça. C'est que les gens se sont achetés deux voitures pour avoir une voiture. Alors, ça s'est passé en France.
Puis en banlieue, ça existe, la multimotorisation, maintenant.
Alors, ça ne serait pas un problème avec trois ou quatre voitures, d'en avoir une pour chaque jour de la semaine.
Moi, je voulais juste ajouter qu'on avait déjà fait un premier débat dans le cadre de la Nuit de la philosophie à l'UQAM avant que le livre soit écrit. Puis à l'époque, on nous cataloguait de dangereux maoïstes. Et puis, on acceptait. On disait oui, avec quelques bons en avant, en plus. Bon, on n'avait pas de mal avec cette forme de révolution culturelle, institutionnelle. On s'est un petit peu calmé. Comme l'a dit le sous-titre, on a fait « Wow, les moteurs ». On a essayé d'aménager. Mais c'est vrai que le problème ne peut pas être simplement par des mécanismes, disons, coercitifs. Il est vrai... Par contre, que c'est assez étonnant de voir que parfois, lorsque des contingences vont imposer des choix, les gens, tout à coup, moi, c'est un exemple que j'avais noté aussi, les gens disaient, si le service était toujours donné, alors je le prendrais volontiers tous les jours. Or, au lieu de réagir à cette demande, on s'est tout de suite dépêché d'investir dans les infrastructures routières pour régler le problème. Mmh. Et surtout, il fallait pas utiliser l'autobus, alors que là, on avait la preuve que les gens pouvaient demander le service, qui est quand même assez...
Ils l'appréciaient.
Parce que le service, en plus, était beaucoup plus fréquent. C'est-à-dire, on s'est dit, non seulement il y a un problème, parce que, bon, il n'y a plus de transport en voiture possible, mais alors, dans ce cas-là, on va doubler ou tripler, je crois, l'offre qui était faite aux utilisateurs. Mais alors, du coup, ça devenait quelque chose de... Personne ne se pose pas la question. C'est, si j'étais toujours dans la situation où je peux prendre un transport qui est performant, alors, je ne vois pas pourquoi je m'y refuserais.
Je vais peut-être me permettre le luxe d'une question. Je n'ai... j'ai l'embarras du choix. Je pense que c'est un sort que nous partageons tous, pas encore lu le livre, mais il y a une tension possible entre deux éléments de votre discours. Un élément que je taxerais pour utiliser moi-même un peu de jargon, qui est perfectionniste. Hein? On peut changer les habitudes des gens, on a une vision d'un monde meilleur et prenons des mesures pour y arriver. Et il y a une autre qu'on pourrait appeler, et là ce n'est pas un mot de jargon, démocratique. C'est-à-dire, il faut que tout cela fasse l'objet d'une délibération démocratique. Il se trouve que je reviens d'une réunion assez déprimante. Je fais partie d'un comité qui essaie d'imaginer un cadre réglementaire pour des nouvelles technologies de surveillance qui sont... Alors, 1984, là, c'est de la petite bière, les choses qui nous pendent au nez, qui sont déjà là sans qu'on le sache, des gadgets qui peuvent... ça me fait dresser métaphoriquement les cheveux sur la tête. Mais ce qu'on trouve, c'est que les gens, quand on met des gens dans des... Pas seulement lorsqu'on fait des sondages bêtes, là, est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ou cela, mais on met les gens dans des situations expérimentales où on leur explique un peu de quoi il s'agit, on leur explique aussi les dérives possibles et les coûts sur les droits. Que ça leur représente, mais il y a toujours le côté sécurité, oui, mais ça pourrait plus nous sécuriser parce que, et alors même après information sur les dangers possibles, en fait, ils sont toujours prêts à sacrifier beaucoup de leurs droits pour, et alors ma question un peu longue consiste à dire qu'est-ce que vous faites si ça marche pas, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites au fond si le stationnement à Montréal, centre-ville, est rendu à 24 $ par jour. Là. Si vous stationnez à un parc-mètre dans le centre-ville de Montréal, c'est 3 $ de l'heure. Hein. Donc, jusqu'à un certain point, on peut penser que la réalité vous a dépassé. 24 $ pour le 9 à 5, là, c'est de l'argent. Hein. Qu'est-ce que vous faites si vous trouvez qu'il y a quelque chose un peu d'irréductible, comme les Lavalois, là, rationnellement, on sait que le transport en commun, c'est mieux, mais il y a quelque chose comme... quelque chose qu'il ne faut pas négliger, là, quelque chose, un rapport presque affectif que les gens ont avec leur voiture. La voiture, ça représente la liberté. La voiture, ça fait partie, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, du rêve américain. Ça fait partie aussi, c'est la sphère privée. Hein. Quand je suis dans la voiture, je suis seul avec moi-même ou je peux mettre la musique que je veux. Je peux crier si je veux sans me faire mettre des Alors... qu'est-ce que vous faites s'il y a quelque chose comme une sorte de noyau dur de résistance qui est à la limite même pas rationnel nécessairement, quelque chose un atavisme qui... est-ce que c'est le côté perfectionniste ou le côté démocratique qui gagne? J'ai regardé Christian, mais j'aurais pu également regarder Martin pour poser la question.
Merci. Oui. Je te recommande de lire le livre, Daniel.
Je vais le lire. Que... ce soir même.
Voilà. Parce que la troisième partie traite spécifiquement de ce problème-là, puisqu'il y a quand même plusieurs types d'utilisateurs de voitures, et c'est vrai qu'il y a un noyau dur de personnes qui ne changeront pas leur comportement tant que la voiture est aussi facile d'utilisation, qu'elle a un statut social qui lui est associé, et que c'est quand même, on peut quand même se la payer, ils ne changeront pas leur comportement. Mais c'est la minorité des... et ça, c'est empirique, là. Empiriquement, donc, les faits nous montrent qu'il y a un noyau dur de conducteurs, mais c'est la minorité des conducteurs. Donc, nous, ce sur quoi on compte, c'est sur une certaine réalité, c'est-à-dire que la majorité des conducteurs seraient prêts à changer leur comportement si les structures sociales changeaient. Et si au bout d'un certain... si au bout de toutes sortes de modifications urbaines et de modifications dans nos modes de transport sont faites, il reste des individus qui sont des combattants, des warriors de la voiture et qui sont prêts à payer le prix, ben ils en paieront le prix aussi de leur choix.
Ok, voilà. J'aurais tendance à dire on passe à l'action, mais bon, je vais m'abstenir. Je pense que deux choses. Premièrement, dans la question des voitures, il y a ce qu'on avait appelé le dommage à autrui, le dommage à soi-même. On n'est pas obligé d'accepter la thèse du dommage à soi-même, parce que ça peut être problématique. Mais on peut au moins reconnaître qu'il y a un dommage à autrui. Et dans la mesure où il y a dommage à autrui, là, on peut imaginer des actions de la même façon qu'il y a eu des actions, disons, coercitives ou, disons, des actions plus fortes dans la lutte contre le tabagisme. En fait, le livre, au départ, on avait décidé d'appeler ça « No Parking », mais en référence à un livre de Bob Goodin qui s'appelle « No Smoking ». Et on reprenait un peu le même type d'argument que Bob Goodin dans son livre, en disant si le tabac représente un tort à autrui, alors nous sommes dans notre droit de faire en sorte qu'il y ait des campagnes de promotion contre le tabagisme et aussi de l'interdire dans des lieux publics. Donc je pense qu'à cet égard-là, on pourrait très bien imaginer des mesures qui, sans être coercitives, sont des mesures qui pourraient par exemple aller jusqu'à, des publicités qui montrent tous les méfaits de la voiture, etc. etc. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que même si Martin a raison, il y a une série d'irréductibles qu'on ne peut pas convaincre, ce qui, moi, m'apparaît le plus difficile, ceci, je n'essaie même pas de les convaincre. Ce qui, moi, m'apparaît le plus difficile, c'est de convaincre les gens qui sont déjà convaincus. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire « on est tout à fait sympathique à votre cause, vous avez raison » et qui, après nous avoir serré la main, sautent dans leur bagnole. Donc c'est là. En fait, ce qui est très difficile, c'est de voir toutes sortes de gens qui, acceptent le principe, mais qui considèrent qu'ils sont à eux seuls une excuse ou une, qu'ils ont une bonne raison de, d'échapper à ce qu'on propose. Et ça, ça m'apparaît un peu bizarre, dans la mesure où si on accepte l'argument, il faut être cohérent par rapport à celui-ci.
Je ne me suis pas du tout senti visé par la dernière remarque.
Mais tu n'as pas encore lu le livre.
Ben écoutez, je pense qu'il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de se mettre en ligne pour acheter le livre et
le lire,
oui, pas seulement l'acheter, le lire, et dans l'espoir que ça va enrichir notre débat sur un des sujets les plus importants du développement urbain à l'ère moderne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et rester pour boire un verre de vin avec les auteurs. Voilà, tout en achetant le livre.